L'ouverture ce soir pour nous du sommet de Paris, les loyalistes et le rassemblement LR affirment y participer dans l'espoir de sortir enfin de l'incertitude politique. La station-service de Moindou, victime d'un cambriolage à la voiture Bélier cette nuit, le parquet a ouvert une enquête pour vol aggravé. C'est l'un des temps forts de la semaine handicapable au Mont d'Or, un job dating pour permettre aux personnes en situation de handicap de trouver un emploi. Route 66, l'émission Country de RRB fête ses 20 ans, son animateur Jean-Luc Leroux sera notre invité. En métropole, la canicule perturbe l'activité économique, de nombreux secteurs tournent au ralenti et cela a un coût. Et puis en sport, les mini-jeux du Pacifique, pas de nouvelles médailles d'or pour les cagous, mais de l'argent et du bronze en natation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. C'est donc ce soir pour nous que débute le sommet consacré à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, à l'initiative du président de la République. C'est Emmanuel Macron qui prendra la parole en ouverture de ce sommet à 15h à l'Élysée. Il sera minuit, heure de Nouméa. Les négociations politiques débuteront dans la foulée à l'hôtel Hilton de Bougival où seront hébergées les délégations. Des négociations qui se poursuivront sans échéance prédéterminée. Parallèlement, un collège économique et sociétal se déroulera au ministère des Outre-mer du jeudi 3 juillet au matin jusqu'au 4 juillet à midi. Il portera sur quatre grands thèmes, les finances publiques, le nickel, la diversification économique et le projet de société. Ces réunions sur les thèmes économiques et sociétales seront menées également en visioconférence depuis le Haut-Commissariat à Nouméa pour permettre à d'autres participants d'intervenir à distance et c'est le ministre des Outre-mer qui animera ces échanges. Il faut noter que l'ensemble des participants au sommet sera associé à ces séquences de travail en fonction de leur champ de compétences. Et à la veille de ce rendez-vous, les loyalistes et le Rassemblement précisent les positions qu'ils défendront lors de ce sommet, Elisabeth Noir.
Les loyalistes et le Rassemblement qui iront unis au sommet sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, ils y participeront dans l'espoir de sortir enfin de l'incertitude politique qui paralyse le territoire depuis 2021. Dans un communiqué, les loyalistes et le Rassemblement précisent qu'ils réaffirmeront avec clarté leur attachement à une Nouvelle-Calédonie française, en cohérence avec la volonté souveraine exprimée par les Calédoniens à trois reprises lors des référendums prévus par l'accord de Nouméa. Nous porterons, écrivent-ils, la vision d'une société calédonienne ouverte et multiculturelle, farouchement opposée à la montée du communautarisme et au repli identitaire. Nous plaiderons, poursuivent-ils, pour le transfert de compétences supplémentaires aux provinces, particulièrement celles qui leur permettront, comme la compétence fiscale ou le droit du travail, de développer un modèle de société adapté à leur réalité. Pour les loyalistes et le Rassemblement, la négociation autour des compétences entre la Calédonie, les provinces et l'État devra se faire à la lumière des capacités financières du territoire, mises à mal par l'insurrection de mai 2024, qui a plongé la Nouvelle-Calédonie dans une crise économique, sociale et sécuritaire sans précédent. Ils saluent aussi la tenue d'ateliers thématiques consacrés aux enjeux économiques. Ils appellent à une stratégie industrielle et commerciale claire et partagée, notamment dans le domaine du nickel, pour reconstruire durablement le tissu productif calédonien. Les loyalistes et le Rassemblement revendiquent enfin leur unité, la même unité, disent-ils, qui a permis de faire obstacle au projet d'indépendance-association porté par le ministre d'État Manuel Valls.
Et c'est aussi à la veille du sommet de Paris que les députés de la délégation aux Outre-mer ont voté le rapport sur la situation en Nouvelle-Calédonie. On se souvient que le député LFI David Riemann, qui préside la délégation Outre-mer, et le député LR Philippe Gosselin étaient venus sur le territoire aux côtés des députés calédoniens pour rencontrer les différents acteurs du dossier. Leur rapport formule 15 propositions pour, et je cite, « éviter la spirale infernale d'un profond dépérissement que vit la Nouvelle-Calédonie ». Le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf, s'est exprimé lors de l'adoption de ce rapport.
Il faut aussi que nos décisions politiques soient en phase avec la réalité. C'est le général de Gaulle qui disait ça. Il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités. Et la seule réalité aujourd'hui qu'on connaît en Nouvelle-Calédonie, c'est que ce territoire est devenu ultra dépendant de la métropole. On peut le regretter, mais c'est une réalité.
Le député de la seconde circonscription, Emmanuel Tchibaou, participait aussi à cette séance de la délégation aux Outre-mer.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS pour opinion sur Radio Rythme Bleu, avec d'abord la réponse à notre question d'hier. 64% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que le sommet de Paris sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ne permettra aucune avancée. Ils sont 27% qui disent en attendre surtout des avancées dans le domaine de l'avenir institutionnel. Ils sont 9% à en attendre plutôt des avancées dans le volet économique et sociétal. Voici maintenant notre question du jour. Après sa condamnation à une peine d'inéligibilité dans l'affaire des emplois fictifs, Philippe Gomès peut-il, selon vous, participer aux négociations sur l'avenir? Si vous pensez qu'il peut y participer, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Les faits divers avec d'abord ce cambriolage à la voiture Bélier cette nuit à la station-service de Moindou. Les quatre cambrioleurs capuches sur la tête ont fracturé le volet roulant à l'aide d'un pick-up qu'ils avaient volé à 2h35. La caisse et divers produits ont été volés par ces individus filmés par les caméras de vidéosurveillance de la station. Jérôme Poidae, pardon, est le co-gérant de la station-service de Moindou.
Ils ont fait une voiture Bélier, ils ont défoncé le store d'entrée, ils sont rentrés dans la station et ils ont pris ce qu'ils pouvaient prendre, quoi. La nourriture, les cigarettes, ils sont partis avec la caisse aussi, mais la caisse était vide. Si vous voulez, depuis qu'il y a eu tous les stations cambriolées sur Nouméa, ben, on enlève nos caisses aussi, donc pour l'instant, on n'a pas fait d'estimation. La station est fermée toute la journée, le temps qu'on trouve des solutions pour notre store et puis qu'on attend l'assurance. On est à l'abri de rien, quoi. Pour nous, on voyait que ça se passait à Nouméa, mais là, on commence à voir que ça commence à un peu monter dans le nord, du coup... Il faut juste que les commerçants ils prennent leurs précautions quoi, pour éviter ce genre de choses. On est là pour aider la population, pas pour que d'un coup, d'un soir, il y a une voiture qui vient et qui prend nos produits. Quoi. Du coup, on a pu se faire de la vigilance au niveau de la sécurité. Ça peut toucher tout le monde, quoi. Ça n'arrive pas qu'à nous.
Et la station-service de Moindou restera fermée toute la journée. Le parquet a ouvert une enquête pour vol aggravé. La maison des solidarités de Poya sera fermée, elle, jusqu'au 15 juillet. Décision prise par la mairie après un vol par effraction dans la nuit de dimanche à lundi. Du matériel a été dérobé et les locaux ont été dégradés. Écoutez le maire de Poya, Evelyne Goro-Attu.
On condamne ces actes, hein, parce que bon, c'est sûr que c'est dommage. Ce qui est mis en place, c'est encore... Je veux dire, au détriment donc de la population de Poya, quoi, les personnes les plus nécessiteuses. Hein. Après, je veux dire, c'est des actes délinquants, hein, on va dire. Hein. Ils sont rentrés par une porte à l'arrière, ils ont effraction, ils ont cassé, puis ils sont rentrés par un autre accès du bureau au niveau du bâtiment, puis ils ont accédé après à l'intérieur sur la pièce qui sert à la MDS.
Qu'est-ce qu'ils ont volé?
Les broussailleuses, les cuiseurs à riz, un peu de... Ils faisaient nos dons pour les cabas alimentaires, voilà, ils sont servis. Ils ont saccagé, mais sans forcément casser, quoi. Voilà. Donc là, le temps qu'on reconstitue le stock, on nettoie, et puis on pourra rouvrir après le 15.
Des propos recueillis par Kélinda Boicou, la mairie a déposé plainte et une enquête est ouverte pour retrouver notamment les auteurs qui sont recherchés. Et puis rappelons cette interception de 2,5 tonnes de cocaïne au large de la Nouvelle-Calédonie. Le patrouilleur outre-mer Auguste Bénébigue, appuyé par un gardien de la marine nationale, a arraisonné un navire suspect à près de 400 000 nautiques de Nouméa. À son bord se trouvaient des paquets de cocaïne qui devaient être vendus en Australie. 7 membres d'équipage composés de 2 Portugais et 5 ressortissants équatoriens ont été placés en garde à vue le 29 juin dernier. Le parquet de Nouméa a ouvert une enquête pour trafic de stupéfiants. Et puis, toujours en bref, une coopération commerciale renforcée. Air Calin et Singapore Airlines ont signé un accord de partage des codes. Déjà partenaires commerciaux depuis plusieurs années, notamment depuis l'ouverture de la ligne Air Calin Nouméa-Singapour en juillet 2022, les deux compagnies vont désormais partager leurs codes sur la route Singapour-Nouméa. Le premier vol opéré dans ce cadre aura lieu le 3 octobre. Avec ce nouvel accord de partage des codes, les passagers n'auront besoin que d'un seul billet pour un vol aller-retour entre Paris et Nouméa via Singapour au départ de Paris ou de Nouméa. Complémentaire à la ligne Nouméa-Paris via Bangkok lancée en décembre 2024, cette route via Singapour constitue une alternative parmi les plus directes et les plus rapides pour relier la Nouvelle-Calédonie à la métropole, indique Air Calin dans un communiqué. Il est 11h39, une première page de publicité dans ce journal. Et dans la deuxième page de ce journal, on s'intéresse à ce qui fait le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Prenez soin de votre basse-cour. Du 23 juin au 13 juillet, le poulailler Medium Square est à 59 990 francs seulement. Vos animaux à plumes et à poils ont aussi droit au bien-être. Avec Jardiland Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici.
Jardiland.
Thaïlande.
Cultivez votre bien-être.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
À la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, la Banque alimentaire recherche Doc urgemment. L'association bénéficie de locaux prêtés par l'OPT depuis sa création il y a 6 ans. Seulement, la Banque alimentaire doit le restituer à la fin de l'année. Et pour l'instant, elle n'a toujours pas de solution de rechange. Nous en avons parlé tout à l'heure avec sa présidente Betty Levanquet, qui était notre invitée à 7h30.
Je souhaite un doc de 600 mètres carrés minimum. Pourquoi ? Parce qu'il faut que j'installe des chambres froides positives, négatives, avec un sas pour traiter les fruits et les légumes qui arrivent, pour les trier, et également installer une cuisine professionnelle pour être à l'image des autres banques alimentaires et pouvoir cuisiner les invendus alimentaires pour faire des repas solidaires. Et aujourd'hui, moi, mon cri, c'est « Hello, on n'a plus de doc dans 6 mois, je l'ai demandé gentiment. Si vous avez un doc, bon, en fait, on n'a pas d'argent pour le payer, mais on va délivrer des reçus fiscaux. Donc, si vous avez une société qui fait encore des bénéfices, c'est génial. Si vous avez aussi un doc que vous pouvez nous louer contre un reçu fiscal pour payer moins d'impôts sur les sociétés ou sur les particuliers, l'impôt sur revenu physique, je vous en supplie, pensez à nous parce que en même temps, vous allez faire du bien et ça va vous faire énormément de bien.
Et si vous souhaitez aider la Banque alimentaire, vous pouvez contacter le 78 41 48, le 78 41 48, ou vous rendre sur la page Facebook La Banque alimentaire en Nouvelle-Calédonie. Direction le lycée Apolitaire à Nova Païta maintenant. Il est le théâtre aujourd'hui d'un forum de l'orientation et de la citoyenneté. C'est une opportunité pour les élèves de l'établissement d'obtenir des informations sur la suite de leur parcours scolaire, Michael Juneski.
Oui, les quelques 450 lycéens profitent de cette matinée particulière avec des stands installés dans tout le lycée pour les informer sur les possibilités de poursuite d'études ou d'insertion dans la vie active. Leïla Nitrocro, professeure au lycée Anova et co-organisatrice de ce forum.
Les élèves arrivés en seconde générale ont déjà beaucoup de choix à faire sur leur orientation de classe de première et ensuite on leur redemande en classe de première de refaire des choix d'orientation sur le post-bac. Donc aujourd'hui, nous réunissons un certain nombre d'établissements calédoniens en formation post-bac, allant de l'université au BTS, le BUT, des formations ici des écoles qui sont venues présenter leurs offres. Et nous avons en plus voulu sensibiliser les jeunes d'un point de vue citoyen. Donc il y a un pôle santé avec l'IFPSS et des associations pour promouvoir un petit peu la citoyenneté au sens calédonien. Ils sont contents d'avoir accès aux professionnels en direct, puisque bon voilà, le déplacement peut être parfois un petit peu délicat sur Nouméa. Ils sont aussi, ils découvrent des éléments en se disant « Ah bah tiens, ça on savait pas, c'est super. Ah mais madame, il y a ça. » Voilà. Donc c'est vraiment, je pense, pour nous, la journée, elle semble réussir.
Et parmi les stands présents, les carrières militaires ou policières et la possibilité de partir en métropole qui suscite toujours un grand intérêt de la jeunesse calédonienne.
Je trouve que c'est très bien quand même parce que ça permet de voir plein de trucs. D'habitude, on est focalisé sur les cours et puis là, on voit ce qu'il y a à l'extérieur. Là, je regardais, il y a les trucs armée de l'air, armée de terre. Il y a aussi les trucs de police nationale, c'est bien.
Surtout ce que par rapport à l'armée, ça m'a beaucoup intéressé. Et ils nous ont appris plein de choses comment ça se passe, comment avoir un dossier pour s'intégrer dedans et les profils qu'ils recherchent.
Non, c'est bien, ça nous donne des bonnes informations.
Des choses qui vous intéressent plus?
À l'armée de terre. C'est bon ça. Ils nous ont dit pour les mécaniciens, ils ont des primes.
Mais des jeunes réfléchissent aussi à des poursuites d'études.
Je trouve que c'est bien de faire un carrefour des métiers pour plus tard, après le lycée du coup. Oui, ça me donne déjà des idées. Peut-être aller vers un BTS maintenance des systèmes.
Il y a des gens aussi qualifiés, on les voit, qui nous aident à nous orienter pour plus tard aussi.
C'est bien parce que on s'informe avec les personnes qui ont plus d'expérience. Ça nous permet d'être bien informés pour ne pas se tromper sur nos orientations.
Le forum de l'orientation et de la citoyenneté du lycée Apollinaire à Nova Païta qui continue jusqu'à midi.
Au centre culturel de Boulari au Mont d'Or, c'était la 3e édition de la matinée en dynamique. Un temps fort de la semaine handicapable consacré à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Organisé par le Centre communal d'action sociale du Mont d'Or, cet événement a permis la rencontre entre des employeurs, des structures d'accompagnement et des demandeurs d'emploi. L'objectif est de créer des opportunités concrètes via ce job dating, mais aussi faire connaître les dispositifs existants en matière d'emploi et de formation. Parmi les participants, Alphonse, en situation de handicap moteur.
C'est un peu à la prise d'information. Je suis venu un peu faire un tour pour voir si je pouvais trouver un travail qui m'est adapté, quoi. C'est-à-dire dans le sens de mon handicap. Pour l'instant, je parle à une entreprise d'intérim. Au début, quand j'étais valide, j'étais élagueur. Couper les arbres, je montais les arbres. Du coup, maintenant, je suis dans l'espace vert, quoi. Et bien après, maintenant, je suis obligé de me conformer à ce que je suis, c'est-à-dire de chercher du travail qui m'est adapté. Maintenant, il va falloir suivre des formations. Je suis obligé. J'ai plus le choix parce que j'ai pas de travail qui est convenu pour moi en tant que handicapé, quoi.
Une dizaine d'entreprises étaient présentes, parmi elles Envie, structure qui emploie exclusivement des personnes en situation de handicap. Angéline Martinotti est conseillère d'insertion professionnelle et elle a pu rencontrer les demandeurs d'emploi.
Nous, on propose du upcycling, c'est-à-dire qu'on collecte, on trie des matières premières qui sont destinées parfois à aller à la poubelle et on leur donne une seconde vie. Les salariés qui travaillent dans notre entreprise d'insertion sont tous en situation de handicap. On participe à chaque en dynamique et notre but de tenir le stand de ce matin, c'est de présenter notre activité et de recruter peut-être de futurs candidats. C'est extrêmement important, c'est une journée qui permet de mettre en lumière toutes les personnes en situation de handicap, c'est une journée aussi, un temps de rencontre et d'échange entre les entreprises et les personnes en situation de handicap, donc c'est nécessaire, ça a lieu une fois par an et on est très très content que cette journée existe.
Les contrats proposés sont des contrats de 3 mois minimum, renouvelables une fois, et pour chaque recrutement à temps complet, l'entreprise perçoit une somme de 550 000 francs.
À Radio Rythme Bleu, 11h46.
L'histoire des descendants japonais racontée aux lycéens, sous l'impulsion du bureau consulaire du Japon à Nouméa. Une conférence s'est tenue ce matin au cinéma de Dumbéa, Léana Colombo.
Oui, plus d'une centaine de lycéens venus des établissements d'Ikukewe, Jules Garnier, Blaise Pascal et du Mont d'Or ont participé à la conférence organisée avec le soutien du vice-rectorat. L'occasion de découvrir l'histoire souvent méconnue de ces Japonais qui ont immigré en Nouvelle-Calédonie. Sur le territoire, de nombreux Calédoniens ont des origines japonaises. Une histoire de culture liée depuis de nombreuses années, souligne Jocelyne Pommette, professeure de japonais au lycée d'Ikikewe.
Très liée, ne serait-ce que par la culture du manga, que ce soit des jeunes ou des plus âgés. On a tous baigné dedans, le manga, l'animé, tout ce qui est en relation avec la culture japonaise ou les fêtes japonaises, et même l'habit japonais, le sport. Beaucoup de Calédoniens pratiquent les arts martiaux. Il y a eu des événements qui ont permis de faire découvrir ou de redécouvrir la culture japonaise. Je pense à Gomanga, par exemple. Je pense notamment là au prochain festival du cinéma japonais. Chaque année, on essaye de marquer le coup et de faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent avoir accès à cette culture, puissent la comprendre et puissent en apprendre davantage.
Cette conférence a également été l'occasion de revenir sur le Uchina Junior Study Programme à Okinawa, un programme d'immersion organisé par la préfecture d'Okinawa qui regroupe la jeunesse du monde entier originaire de cette région sur cette île ancestrale pour partir à la rencontre de leur famille perdue. C'était le cas d'Aurore Bonaventure. Elle a participé au programme en 2010 et témoigne de son expérience.
Là-bas, en fait, j'ai pu rencontrer le demi-frère de ma grand-mère. Mon ancêtre, c'est mon arrière-grand-père. En fait, c'est Kana Nakamura. Et j'ai pu rencontrer son fils, en fait, avant de quitter le Japon. Mon arrière-grand-père, il est venu s'installer au Japon avant la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, il avait déjà une famille, en fait, au Japon. Et quand il est venu s'installer ici, il s'est remarié. Donc voilà, j'ai pu le rencontrer là-bas, sur place, à Okinawa. J'ai gardé quelques contacts pendant quelques années. Après, on s'est perdu de vue, malheureusement. Donc, c'est pas grave. Mais oui, je conseille même de partir sans forcément le Junior City Tour. Je conseille de partir au Japon, d'aller découvrir, qu'on soit descendant ou pas d'ailleurs du Japon, on peut totalement aller visiter le Japon, c'est tellement beau. À toutes les saisons de l'année, c'est magnifique.
Parmi les intervenants de cette conférence, Marie-Josée Michel, membre de l'amicale japonaise et ancienne consul honoraire du Japon, mais aussi Yoshikazu Iwata, consul et chef adjoint du bureau consulaire du Japon à Nouméa.
Et puis la femme de la paix a entamé hier soir une nouvelle étape de son parcours à Tahiti, portée par l'Association des femmes du Pacifique. Cette sculpture symbolise leur combat contre les violences faites aux femmes. Depuis 2023, cette œuvre d'art a traversé toute la Grande Terre. Elle a été à Marais, mais aussi en Nouvelle-Zélande. Elle s'apprête donc à poursuivre son chemin dans les archipels de Polynésie. Partout où elle passe, la sculpture est transmise et des ateliers sont organisés pour libérer la parole, sensibiliser et renforcer les liens entre les victimes. La présidente du Conseil des femmes du Pacifique, Meke Kuer, explique l'importance de cette action.
On apporte un message déjà pour les femmes
stop à la violence. Et puis dire aussi qu'on n'est pas des pushing balls. Osez en parler, sortez de votre silence et ne restez pas chez vous parce qu'on est là. C'est vrai que maintenant, les femmes qui sortent de leur silence, elles ont la force d'aller déposer plainte. On a la chance que les institutions nous ont mis aussi ont mis en place plusieurs structures aussi au niveau de la police. Quand il y a des plaintes, elles ne sont plus là à attendre. Ils ont quand même un suivi. J'encourage ces femmes-là à continuer parce que le combat n'est pas terminé. C'est à nous, femmes, à continuer notre combat dans la lutte contre les violences faites aux femmes, intrafamiliales et toutes sortes de luttes et tout.
Après son passage en Polynésie, la Flamme de la Paix reviendra en Nouvelle-Calédonie au mois de novembre. Elle poursuivra ensuite son voyage dans le Pacifique. Le Vanuatu, Wallis et Futuna ou encore le Japon figurent parmi les pays prêts à l'accueillir. Et parlons maintenant d'un anniversaire, celui d'une émission sur Radio Rythme Bleu, Route 66, émission évidemment consacrée à la musique country. 20 ans d'émission, 20 ans de présence de Jean-Luc Leroux, qui est notre invité. Bonjour.
Bonjour, happy birthday to me.
Voilà, ça là, vous ne pouviez pas ne pas la faire. On va parler de votre émission spéciale, parce qu'évidemment, pour ce 20e anniversaire, samedi à 16h, vous nous avez concocté une émission spéciale. Mais avant cela, Jean-Luc Leroux, d'où vous vient cet amour pour cette musique?
Eh bien, c'est dû à cette période des années, fin des années 60, début des années 70, quand j'étais en France, et où le pays était inondé de cette folk music qui venait des USA avec Pete Seeger, John Baez, Janis Joplin, tous ces gens qui avaient importé ce souffle de liberté en France, d'ailleurs, qui avait donné lieu plus ou moins à mai 68 et cette notion de liberté qu'avait soufflé à cette époque-là. Et en fin de compte, je suis resté fidèle à la tradition musicale américaine. Et puis, en fouillant un petit peu, un jour, je suis tombé sur des disques à Gibert Jeune, qui était la librairie des étudiants, où j'ai vu tous ces disques de country et de bluegrass. Et puis, voilà.
Ça... Alors, ça a commencé par les disques, par écouter cette musique. Après, il y a eu un certain nombre de voyages aux États-Unis.
Après, il y a eu des rencontres, il y a eu des voyages aux USA. Ça, il y a eu bien évidemment des concerts, les premiers festivals de country et de bluegrass que j'ai organisés en France, les radios libres à l'époque sur lesquelles je fissiais et qui me permettaient de pouvoir diffuser cette musique que j'aimais. Ouais.
Alors, et puis il y a 20 ans, en arrivant à Radio Rythme Bleu, Route 66, Route 66, on va parler évidemment de ce symbole. Vous vous souvenez de votre première émission il y a 20 ans?
Ah oui, j'étais dans mes petits souliers parce que c'était voilà, on m'avait donné les rênes et jusqu'à présent, pendant une semaine, je faisais une émission le soir pour me faire la main. C'était pipi, bonsoir, bonne nuit au lit. Voilà. Et puis tout d'un coup, il a fallu que je me lâche et que je prenne les rênes sur ce créneau horaire. Je crois qu'il n'a pas bougé depuis le début. Et pour moi, c'était le bonheur. Je prenais la suite d'une jeune femme qui s'appelait Anaïs à l'époque, qui faisait déjà une Route 66.
Alors Route 66, c'est évidemment un titre mythique, hein, Route 66, c'est cette fameuse route qui traverse les États-Unis d'ouest en est. C'est donc une invitation au voyage par la musique, finalement, cette émission.
C'est une mission un petit peu, j'allais dire, tutorielle, où je passe de la musique, mais j'explique aussi pourquoi je le fais. Et j'explique toujours un petit peu les origines des morceaux que je joue. Je fais un petit peu l'historique de cette musique, oui, tout à fait.
Donc samedi, 16h, ce sera l'émission du 20e anniversaire. Qu'est-ce que vous nous avez concocté? Est-ce que ce sera une émission un peu particulière?
Ça va être une émission caillafou un peu spéciale. Voilà, il y a un programme, bien sûr, sur lequel on va s'appuyer, mais il va y avoir des invités. On va essayer de faire quelques jeux. Ça va être une émission qui sera pas comme d'habitude. Ça va être une émission de festivités, de souvenirs. Les invités, d'ailleurs, pourront relater leurs souvenirs, puisque j'ai des amis, des auditeurs fidèles qui seront là. Il y a la personne qui m'avait à l'époque. J'allais dire recruté, je parlais de Gérald Prost qui m'était venu me chercher pour faire cette émission. Et puis, ça va être une émission souvenir, une émission sourire, une émission plaisir.
Voilà, et ça reste une émission musicale, évidemment. Voilà, on entendra des belles choses.
Voilà, et il faut savoir que cette semaine, c'est quand même la semaine de l'indépendance des USA.
4 juillet.
Le 4 juillet, c'est un petit peu cette occasion aussi qu'on a calé cet anniversaire dans ce créneau. Et je serai aussi présent, bien sûr, le 4 juillet pour un concert, un super concert qui sera effectué à la Barca, voilà, à partir de 19h, voilà. Donc ça va faire une chargée, une semaine chargée en musique country, ça va être bien, ça va être RRB, l'étincelle, le feu d'artifice, et puis bah, ce concert. Tout ça ensemble, c'est bien, c'est une belle semaine pour moi.
Merci Jean-Luc Leroux d'être venu dans nos studios, et rendez-vous à 16h samedi.
Oui, et merci surtout à RRB de m'avoir fait confiance pendant tous ces 20 ans, sans jamais avoir interféré une fois. Vraiment merci beaucoup de cette confiance.
Il est 11h55, une nouvelle pause dans ce journal et on se retrouve dans un instant pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Rhume, nez bouché, nez qui coule, stop! Le spray nasal décongestionnant pur essentiel dégage le nez de toute la famille immédiatement. C'est la solution naturelle à l'efficacité cliniquement prouvée. Dispositif médical, dès 3 ans, en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. Nouveau, pour soulager tout grasse et tout sèche, découvrez les comprimés tout pur essentiel.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
L'actualité en métropole, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Oui, et il fait chaud, très chaud en métropole où la canicule perturbe l'activité dans de nombreux domaines. 1900 écoles sont restées fermées dans les 16 départements qui sont toujours placés en vigilance rouge canicule. 68 autres départements sont en vigilance orange. Les températures sont parfois montées jusqu'à 39 degrés. Qui dit canicule dit aussi sécheresse et incendie. Depuis dimanche et pendant 2 jours, les flammes ont détruit 400 hectares de végétation à Bizarret dans l'Aude. Tout est parti de l'imprudence d'un automobiliste qui a été mis en examen et placé en détention provisoire. Cyril de la Morinerie pour Europe 1.
Tout indique que des projections de braises ont provoqué plusieurs départs de feu. Le suspect était chargé d'organiser un apéritif et un repas à l'occasion d'un mariage. Dimanche dernier vers 15h, ce commerçant quitte les lieux après avoir installé le brasero et le tournebroche sur sa remorque. Il prend alors la direction de Courson, fait un premier stop et s'arrête une seconde fois près de la commune de Bizanet, explique le procureur de la République de Narbonne, Éric Camus.
Il apercevait d'importantes fumées à l'arrière de sa remorque. Il stoppait immédiatement son véhicule, s'emparait de 2 bidons de 5 litres d'eau pour tenter d'éteindre le foyer. N'y parvenant pas, il appelait les pompiers à 16h05.
Le mis en examen est un homme de 33 ans, un traiteur ambulant qui avait déjà commis plusieurs infractions, précise le procureur.
Il avait malgré tout été plusieurs fois condamné, conduite en état alcoolique, sous l'emprise de stupéfiants. Au moment des faits, il ne possédait plus le permis de conduire, il n'avait pas d'assurance professionnelle et son véhicule n'était pas assuré.
Le suspect a reconnu les faits, il risque 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
La canicule a aussi des conséquences économiques puisque nombre d'activités tournent au ralenti. Une journée avec des températures supérieures à 32 degrés coûterait l'équivalent d'une demi-journée de grève. Les vagues de chaleur qui ont touché l'Europe il y a 2 ans, mais aussi la Chine et les USA, auraient coûté 0,6 point de PIB. Les secteurs les plus touchés sont toujours l'agriculture et le BTP. Anna Boiteau est directrice de recherche économique au cabinet Allianz Trade.
Quand la température elle est au-dessus de 32 degrés, les gens ont tendance à pas pouvoir faire du travail physique. Donc on est sur une perte de 40%. Évidemment, si les températures sont à 37-38, un peu comme en ce moment, on parle d'une perte de 2/3 de la productivité.
Les canicules ont aussi des conséquences sanitaires qui engendrent des coûts importants. Selon Santé publique France, les canicules survenues entre 2015 et 2021 ont coûté 22 à 37 milliards d'euros, soit environ 3 000 milliards de francs. L'actualité politique et François Bayrou échappe à une 8e motion de censure depuis son arrivée à Matignon. Elle avait été déposée par le Parti Socialiste après l'échec du conclave sur les retraites. Elle n'a pas été votée par les élus Rassemblement National et a donc été rejetée. Le Rassemblement National, par la voix de son chef de file à l'Assemblée, Marine Le Pen, s'en prend à Bruno Retailleau. Elle signe une tribune dans Le Figaro pour dénoncer la politique fiction du ministre de l'Intérieur sur l'immigration. Pourtant, le premier bilan depuis son arrivée place Beauvau semble plutôt bon. Maïlène Trémollet pour Europe 1.
Avec une baisse de 7,5% des visas long séjour entre octobre 2024 et avril 2025, une baisse de 30% des admissions exceptionnelles au séjour depuis le début de l'année, tout porte à croire que la France attire moins qu'auparavant. En témoigne la baisse de 4% des premières demandes d'asile qui place l'Hexagone derrière l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie dans ce domaine. Autre recul, celui des naturalisations avec seulement 41 000 dossiers enregistrés ces 8 derniers mois. Un bilan global dont se félicitait hier Bruno Retailleau depuis l'Assemblée nationale.
Nous multiplions les accords avec les pays d'origine et de transit. En Europe, la désastreuse directive retour va être transformée. J'obtiens des résultats. Mon premier résultat, c'est d'avoir inversé une tendance qui était là depuis des années.
De son côté, Marine Le Pen déplore dans une tribune publiée hier un premier bilan loin d'être abouti. La chef de file des députés RN appelle le ministre de l'Intérieur à aller plus loin et réclame l'application de nouveaux leviers pour réduire drastiquement les flux migratoires, comme une réduction du regroupement familial accompagnée d'une abrogation du droit du sol.
L'actualité à l'étranger, en bref, la cour d'appel d'Alger confirme la condamnation de 5 ans de prison prononcée en première instance à l'encontre de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Son dernier recours est entre les mains du président algérien, le seul qui puisse prononcer son amnistie. Et puis cette fois-ci, le torchon brûle, semble-t-il, définitivement entre Donald Trump et son désormais ex-conseiller Elon Musk. Le président américain menace d'expulser le patron de Tesla des États-Unis pour le renvoyer en Afrique du Sud. Nouveau coup de colère après la charge d'Elon Musk contre le vaste projet de loi budgétaire qui a été adopté de justesse par le Sénat américain. Et puis l'actualité dans la région avec cette visite du Premier ministre fidjien en Australie. Siti Venirambuka a eu ses premiers entretiens. Il porte essentiellement sur les questions de sécurité régionale. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Siti Venirambuka est accompagné dans sa visite de plusieurs ministres, dont ceux de la Défense, de l'Immigration et de l'Intérieur. Après une cérémonie d'accueil protocolaire, il a rencontré hier après-midi le ministre fédéral de l'Intérieur et de l'Immigration, Tony Burke, avec lequel il a abordé plusieurs thèmes de discussion qui portaient notamment sur la lutte contre le crime transnational, les trafics de drogue et d'êtres humains et les cybermenaces. Ils ont également convenu d'accroître la coopération bilatérale en matière de sécurité. Les entretiens que Siti Venirambuka va avoir durant son séjour à Canberra vont également porter sur le renforcement des capacités frontalières et portuaires et le renforcement surtout de la solidarité régionale en faveur d'un Pacifique sûr, stable et résilient. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Midi 2 sur Radio Rythme Bleu. Une dernière pause avant de voir toute l'actualité sportive. On fera le point notamment sur les performances des Calédoniens au midi-jeu du Pacifique.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Attention, plus que quelques jours avant le tirage au sort du million en bons d'achat sur RRB. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Il n'y a pas de liste préétablie. Le ou la gagnante décidera comment dépenser son million. Et puis, il y a toujours 100 000 francs à gagner en bons d'achat. Si vous êtes le 1500e SMS, pile sur le compteur. Alors n'hésitez plus. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Chaque SMS compte pour le tirage du million le 4 juillet à 14h. 371 francs par SMS. Règlement du jeu disponible à l'accueil de la radio. Saisissez votre chance. Envoyez RRB au 40-20.
Chers amis golfeurs, The Amateur Golf World Cup est de retour et s'appelle désormais la Summer Bay World Cup. Alors vous aussi, tentez votre chance pour représenter la Nouvelle-Calédonie en Égypte. Prochaine qualification de la Summer Bay World Cup, le dimanche 6 juillet en formule Stableford au golfe de Deva. Inscription par téléphone à Deva au 20 70 16.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec le sport et direction Palau.
Suivez les mini-jeux du Pacifique avec Toyota Location. Les mini-jeux du Pacifique, c'est aussi avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
Les mini-jeux du Pacifique où les épreuves se poursuivent, évidemment, c'est le troisième jour de compétition déjà, avec des Calédoniens engagés dans différentes disciplines aujourd'hui. Natation, volley, beach volley et tennis de table, Michael Juneski.
Oui, et notamment la natation, première discipline pourvoyeuse de podium pour nos représentants depuis le coup d'envoi. Hier soir, la délégation calédonienne a encore remporté des récompenses. Une médaille d'argent sur le 400 mètres 4 nages grâce à Clara Delunel. Camille Gerset et Manon Baldovini ont obtenu des médailles de bronze, respectivement sur le 800 mètres nage libre et sur le 50 mètres brasse. On écoute le cadre de la natation calédonienne, Stéphane Tichon.
La journée d'hier a bien démarré avec le 800 nage libre de Camille, qui a nagé le matin les séries lentes
donc de cette course-là. Elle réalise son meilleur temps personnel en 9,44 et elle va chercher la médaille de bronze, donc c'était plutôt chouette, même si elle était un peu déçue. Peut-être dans la course l'après-midi, elle aurait pu réaliser un meilleur temps, mais voilà, c'est une satisfaction quand même, record personnel, donc c'était intéressant. Après, pour les autres, au niveau du 50 brasses, Yaron va chercher la 4e place, et puis Manon valide la 3e place en série du matin, puisqu'elle va chercher aussi la médaille de bronze, donc chouette. Et puis enfin Clara, qui était un peu malade toute la journée, finalement elle a nagé le 404 nage et elle va chercher une belle médaille d'argent, donc voilà, ça fait quelques médailles en plus pour la délégation calédonienne. On a des nageurs qui sont engagés sur les différentes courses de la journée. Au 200 dos, on retrouvera Luciala Acha, voilà, qui a de belles chances d'entrer en finale ce soir. Ensuite on a le 50 mètres papillon avec Diane et Clara, là aussi une course où il y a de la concurrence, il y a 31 nageuses engagées, donc ça va nager fort, je pense. Et puis derrière, le 100 mètres brasse avec Luc chez les garçons, avec Yaron et Manon, donc qui eux aussi vont jouer leur chance pour se qualifier cet après-midi pour les finales. Il y a le 4x200 nage libre, mais qui sera nagé uniquement l'après-midi, puisque la série chez les filles est composée de 6 équipes.
Les jeunes sélectionnés qui espèrent briller en natation, avec surtout un format d'épreuve qui les plonge déjà dans le grand bain en vue de Tahiti 2027, à l'image de Yaron Nodanche.
Aujourd'hui, je nage le 100 brasse. Ça va être très dur de rentrer en finale, mais je vais tout donner, car il y a des très grands concurrents, très âgés. Rien n'est joué encore. Je suis confiant quand même. Même si je sais qu'il y aura de la concurrence aussi à Tahiti, je vais tout donner pour progresser encore pendant 2 ans et être sélectionné pour les Jeux de 2027.
On change de discipline. Les beach volleyeuses feront leur entrée dans le tournoi aujourd'hui face aux Vanuatese, Smaïna Mampas et Guaymel Ouedje, qui représentent le territoire. Les volleyeurs indoor, messieurs, joueront quant à eux leur deuxième match de poule dès 13h pour nous cet après-midi face aux Papous, après la victoire en 3-7 hier face à Nauru. Ernest Calemou, joueur de l'équipe de Nouvelle-Calédonie.
Ça va, ça s'est bien passé. Les garçons, ils se sont bien battus pour une première pour certains et une deuxième pour d'autres. C'est un bon début, surtout qu'il y a un match qui nous attend contre PNG. Voilà, on a pu régler quelques petits défauts. On a pu faire jouer tout le monde. Et voilà, maintenant, tout le monde a goûté un match de mini-jeu et on reviendra encore plus fort et on essaiera d'aller chercher la victoire.
Voilà, les pongistes aussi sont engagés aujourd'hui dans le tableau par équipe avec Raphaël Kine, Mathis Pindon et Jérôme Morisseau, l'entraîneur joueur face à Nauru pour le commencement donc des épreuves de tennis de table. Alors le compteur des Cagoués pour le moment à 9 médailles, 2 en or, 1 en argent, 6 en bronze. Les Tahitiens sont en tête du classement avec déjà 40 médailles, dont 23 en or. Rien de surprenant hein, pour une délégation venue en force pour être l'hôte des prochains grands jeux du Pacifique. Alors que les Samoans sont deuxième, 10 médailles dont 6 en or. Et les îles Mariannes troisième avec 12 podiums, dont 4 titres. Les Cagous sont pour le moment à la 9e place.
Les mini-jeux du Pacifique vous ont été proposés par Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs par jour. Seulement 3900 francs par jour. Toyota Location à Nouméa, Kone et Lifou. Un seul numéro, 24 28 28.
Page spéciale mini-jeux du Pacifique, résultats, réactions. Suivez chaque jour les cagous sur RRB avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
Et on va refermer ce journal par le sport sur la scène nationale et internationale. D'abord du football, Michael, et la suite des 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs.
Et cette victoire du Real Madrid face à la Juventus de Turin. Succès des Madrilènes sur le score de 1-0 pour les coéquipiers de Kylian Mbappé face à la Juve de Randal Kolo Muani. Le Real Madrid qui affrontera le vainqueur du match en cours entre les Allemands du Borussia Dortmund et les Mexicains de Monterrey. Je rappelle les affiches qu'on connaît déjà au prochain tour. Les Brésiliens de Fluminense contre les Saoudiens d'Al Hilal. Les Anglais de Chelsea contre d'autres Brésiliens de Palmeiras. Et surtout, le Paris Saint-Germain face au Bayern Munich. Le PSG qui jouera face au Bayern. Donc dimanche matin, ce sera à partir de 3h du matin pour nous.
Et puis en tennis, on va faire le point sur les Français qui sont engagés dans le premier tour de Wimbledon.
Et en tout cas, on ne pourra pas leur reprocher de ne pas s'être montrés aujourd'hui. Les tricolores qui ont en tout cas fait le spectacle en occupant largement les terrains de Londres avec 3 rencontres marathon pour animer ce premier tour. L'exploit du jour. est signé Arthur Rinderknecht, tombeur de la tête de série numéro 3, l'allemand Alexander Zverev, après un duel de 4h39 minutes sur le gazon londonien, 7-6, 6-7, 6-3, 7-6, 6-4. Arthur Cazaux, issu des qualifications, est aussi passé après son succès sur l'Australien Adam Welton, après cette fois 4h11 minutes de match, 6-3, 7-6, 4-6, 6-7, 6-1. Et puis Gaël Monfils, le vétéran tricolore, a pour sa part sorti son compatriote Hugo Humbert, pourtant mieux classé à l'ATP, dans un match encore une fois en 5-7, cette fois quasiment 4 heures de partie, c'est un petit peu plus court, 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-2. Corentin Moutet poursuit également l'aventure grâce à son succès sur l'Argentin Francisco Mozzana en 3-7. En revanche, Hugo Gaston, Quentin Alice ont été sortis dès le premier tour, tout comme Alexandre Muller, battu par Novak Djokovic en 4 manches, ainsi que Giovanni Mpetipé-Ricard après un duel de 3h30 minutes et 5-7 très disputé face à l'Américain Taylor Fritz, 5e joueur mondial. Et puis dans le tableau féminin, c'est passé pour Elsa Jacquemot, tombeuse de la 27e joueuse au classement WTA, la Polonaise Magda Linette, 6-7, 6-1, 6-4.